Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'espace Mendès France. Alors j'aurais tendance à dire c'est la rentrée, donc merci de faire cette rentrée à l'espace Mendès France en ce 11 septembre. Vous allez entendre le professeur Michel Brunet qui est vice-président de cette maison et cette soirée qui promet d'être intéressante, elle est sous l'égide d'une démarche qui est doublement importante pour l'espace Mendès France, celle de la Fondation Aliénor pour la recherche. Modestement, je suis administrateur de cette belle institution que Stéphane Marais pilote avec talent. Et puis aussi, à travers le club Soroptimiste de Poitiers, c'est une belle démarche que nous, on essaie d'encourager à travers les actions de l'espace Mendès France, qui est une mobilisation de vous toutes et vous tous autour des thèmes de science, de recherche, mais aussi de thèmes qui permettent de faire du lien. Alors vous êtes à l'espace Mendès France, une maison qui aura reçu ou touché l'an dernier plus de 160 000 personnes. Quand je suis arrivé ici, c'était 14 000. Donc on voit le chemin parcouru, et ce chemin parcouru, c'est un chemin de dialogue avec nos concitoyens. Et le dialogue, il a lieu plus de 150 fois par an dans cette salle, avec des jeunes et des moins jeunes autour des questions de science. Alors il y a des questions qui sont plus ou moins en prise avec l'actualité, qui sont plus ou moins lourdes, graves, je ne sais pas comment on les appellera. Avec Stéphane, depuis une vingtaine d'années, on mène un pôle info-santé que beaucoup de villes de France nous ont repris. Ce pôle info-santé commence à faire des petits ou des émules sur le reste de la région. Bref, on voit que dans cette maison, il y a un esprit de laboratoire sur l'explication des sciences. Et à ce titre, je voulais remercier le professeur Brunet qui nous a beaucoup aidé à expérimenter les rapports entre la science telle qu'elle se fait, et le public ou les publics. Quand je vous disais 160 000 personnes, à titre indicatif, c'est plus de 60 000 scolaires. D'ailleurs, une anecdote, aussi quelques mois avec Michel, nous étions à Parthenay dans un amphithéâtre de 400 places avec 400 gamins, moyenne d'âge 13 ans. Et quand les jeunes sont sortis de la salle, il y en a un là que j'ai pris par l'épaule et je lui ai dit « Alors c'était bien ?» Ah, il a dit « Oui, oui, il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Le professeur, il est grave stylé. » Alors, je ne vais pas vous faire une traduction, vous êtes grands-parents. Voilà, donc Michel, je lui ai dit ça quand on est sorti. Grave stylé, c'est plutôt pas mal. Hein, pour... Donc un gamin de cinquième, c'est bien. Donc voilà, pour vous dire que ce rapport à la science, il est aussi dans un lien extrêmement fort avec celles et ceux qui font de la recherche, la vraie recherche, celle dont nos concitoyens ont besoin pour la santé, pour l'environnement. Puis ce soir, vous allez sûrement être amené, à travers ce qui est raconté, être amené à rêver et à évoquer le futur. Je finirai en disant que derrière cette porte, là, il y a une exposition qui s'appelle « Tous humains » et vous avez le visage de Toumaï reconstitué que vous allez voir dans la présentation de ce soir. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, dans les semaines et les mois qui viennent, à revenir à l'espace Mendès France, à cette exposition qui traite de nos origines, qui traite des questions de paléontologie, de génétique, mais qui traite aussi d'un problème fort, et Michel a fait partie des gens qui l'ont mis en exergue depuis 15 ans en France, c'est celui du fait que l'humanité n'existe que parce qu'il y a des migrations et des migrants. Nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des migrants, c'est ce que vous expliquera le professeur Brunet ce soir. Madame la Présidente, je vais vous passer la parole. Merci d'être là.
Merci Monsieur Moreau. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être venus pour soutenir notre action. Alors, je vais juste vous donner quelques informations sur le Soroptimiste International pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre organisation. C'est une organisation mondiale de femmes qui sont socialement et professionnellement actives et qui essaient d'améliorer la vie des femmes et des filles dans leur communauté. En 1921, notre organisation a été créée. C'est une ONG. C'est quand même important. C'est important de le dire. C'est parce que globalement, les clubs services ne sont pas ONG. Donc nous sommes une ONG et nous sommes accrédités à l'ONU. Et donc nous comptons 75 000 membres répartis dans 3 000 clubs qui représentent 123 pays, 3 000 clubs dans 123 pays. En France, Nous sommes 2700 femmes qui participons donc à des opérations actives au sein de l'Union française. Et au niveau du club de Poitiers, qui a été créé en 1995, nous comptons actuellement 28 membres de tout horizon professionnel. Alors, en fait, le Sort Optimiste International intervient dans différents domaines, l'éducation, l'autonomisation et le leadership des femmes, la défense, ou au moins essayer de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On intervient également dans le domaine de la santé, de l'environnement et de la paix. Et pour cela, nous organisons des actions donc sur le terrain, soirées festives, brocantes, marché de Noël, conférences comme ce soir, soirées cinéma, notamment dans le cadre de la défense de la lutte contre la violence faite aux femmes, et afin de soutenir en fait des associations au niveau local, mais aussi national et international, et ce dans tous ces domaines de prédilection, qui sont donc éducation, santé, environnement, etc. Ce soir, nous privilégions le domaine de la santé, et nous avons choisi d'aider le fonds Aliénor et de soutenir donc la recherche en santé et l'innovation médicale. Je pense que c'est une bonne opération d'essayer de faire connaître ce fonds. Mais je vais laisser la parole à M. Marais, qui est plus apte que moi à présenter le fonds. Je vous rappelle qu'il y a une urne qui est à l'entrée, qui se promène, nous souhaiterions que vous pensiez à l'alimenter aussi. Donc merci d'avance pour votre participation, parce que sans ces fonds, le fonds ne peut pas faire grand-chose en fait. Je laisse la parole à Monsieur Marais pour l'instant.
Merci Madame. Et puis à ceux qui ont des scrupules, je voudrais les mettre très à l'aise tout de suite. Nous acceptons l'échec de tout montant, les espèces, les legs également, les œuvres d'art. Enfin, toutes les générosités sont les bienvenues. Merci à Didier Moreau et à son équipe de nous accueillir dans cette noble maison, cette noble institution. Merci Madame la Présidente de cette initiative. Merci également au docteur Michel Boissonneau qui a fait l'intermédiaire. Et merci à Michel Brunet, au professeur Michel Brunet, pour sa disponibilité et également cette générosité. Un petit mot sur le fonds Aliénor. Gracienne Gardil, qui prend les photos, m'accompagne dans les actions que nous conduisons pour le fonds Aliénor. C'est un fonds qui a été créé il y a 2 ans par le CHU de Poitiers. Alors, pourquoi créer un fonds et pourquoi soutenir la recherche? D'abord parce que il est important, dans ce nouveau découpage régional, de resituer l'action du CHU de Poitiers. C'est un hôpital, nous dispensons des soins, mais parce que nous sommes centre hospitalier universitaire, nous avons également une mission d'enseignement avec la faculté de médecine et l'université et une mission de recherche. Le fonds Aliénor, c'est un formidable outil pour faire la promotion de la recherche sur le territoire, expliquer à la population, expliquer aux entreprises l'importance de défendre cette recherche-là, parce que maintenir cette recherche ici, c'est permettre, dans un bon nombre de spécialités, de maintenir des activités de recours et d'excellence. Le fonds Aliénor fait appel à la générosité du public, à la générosité des entreprises. Il a été créé il y a 2 ans. En début d'année, début 2018, après 1 an et demi d'action et de collecte, nous avons annoncé reverser 220 000 euros au CHU de Poitiers pour la première fois pour soutenir des équipes. Alors, on accompagne exclusivement la recherche au CHU de Poitiers. 6 premiers projets ont été retenus en 2016 et fin 2017, nous avons retenu à nouveau 6 projets que nous accompagnons en 2018 et en 2019. Donc un grand merci de votre présence ce soir. Un grand merci à vous tous. C'est important effectivement de faire connaître le fonds Aliénor. Merci de votre générosité.
Mais alors donc, j'imagine que vous n'êtes pas venu uniquement pour le fonds Aliénor. Et donc, nous avons souhaité vous proposer une conférence exceptionnelle. Et pour cela, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur Michel Brunet, qui soutient également le Fonds Aliénor et qui a spontanément accepté d'animer cette soirée. Disons que c'est sur la demande d'une de nos membres, le docteur Michel Boissonneau, que nous avons pu mettre au point cette soirée avec le professeur Brunet. Donc le professeur Michel Brunet, paléoanthropologue internationalement connu et reconnu, est professeur émérite du Collège de France et professeur associé à l'Université de Poitiers.
Émérite.
Bon, alors, vous me reprenez. Il est aussi directeur de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, ça je ne me trompe pas, c'est bon. Et le découvreur avec son équipe de Toumaï, une découverte majeure qui repousse les origines de l'humanité de 7 millions d'années en arrière. Il nous convie ce soir à une grande fresque de toute la famille humaine et expose donc les grandes découvertes de la paléontologie. Donc finalement, professeur, d'où viennent les premiers hommes? Ne serions-nous pas tous des Africains? Je vais vous laisser la parole pour en parler plus savamment que moi. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Merci.
Professeur, la parole est à vous.
Merci. Il faut que je prenne un micro. Vous m'entendez là? Ça va là? C'est mieux? C'est mieux? Bon, alors on va faire comme ça. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez tout, hein, on vous a tout expliqué. Alors, je voudrais quand même insister sur une chose. Vous avez la chance, j'ai la chance, et si je suis là, c'est parce que le CHU est un CHU qui fonctionne, qui marche bien. Sinon, je serais pas là, je serais ailleurs. Et il faut se battre pour le conserver. Et le U, qui veut dire universitaire, est important, très important, très important. Et dans la nouvelle région, puisque ça a été dit, il faut bien voir que le U, il y a de la concurrence. Et il y a de la concurrence avec Bordeaux. Donc il faut se battre pour être bon et garder le U. C'est important pour nous tous. Et le Fonds Aliénor est un des moyens pour y arriver. Parce que vous savez bien, c'est partout pareil. La seule bonne volonté ne suffit pas pour faire toutes les choses, c'est pas possible. Et la médecine, qui est plus de la biophysique que de la médecine, utilise des outils qui sont de plus en plus chers, de plus en plus coûteux. Et donc, c'est important. Alors, je voudrais aussi vous dire que, on vous a dit, aidez le CHU. Aider le Fonds Aliénor. Alors, j'ai l'air de faire de la publicité, mais j'y crois. Alors, c'est vrai, je suis membre du conseil scientifique du Fonds Aliénor. Mais c'est important, très important. Puis alors, retenez au moins une chose, si vous ne me croyez pas sur l'importance, si tout à l'heure, quand je vais partir et quand je vais dire au revoir à la présidente, elle me dit, vous savez, hein, vous n'avez pas été bon, hein. On n'a rien récupéré, j'en porterai toute la responsabilité. Alors, s'il vous plaît. Hein. Bon, j'arrête. Alors oui, je vais essayer de vous raconter une histoire. Il est 8h25. Une histoire de 7 millions d'années. Alors, il faut savoir que on a une histoire étrange. Nous, la famille humaine. On a au moins 7 millions d'années d'histoire, au moins 7 millions. Peut-être que demain, après-demain, dans 10 ans, on va trouver quelque chose qui aura 8 millions d'années. Pourquoi pas, hein? Je vous rappelle que Lucie, la grand-mère de l'humanité, elle a 3 millions et 200 000 ans. Donc vous voyez le bond qu'on a fait en arrière. Je vous rappelle que mon colocataire au Collège de France, que vous connaissez bien, Yves Coppens, on occupe le même bureau. Les journalistes veulent toujours qu'on se batte, mais bon, on est colocataire. Et on s'entend bien. Un des pères de Lucie, 3 millions et 200 000 ans. 3 millions et 200 000 ans. Quand on a trouvé Lucie, c'était la grand-mère de l'humanité. Et si on fait un radio-trottoir là tout à l'heure et qu'on pose la question, on vous dira c'est la grand-mère de l'humanité. Si vous demandez, vous connaissez Toumaï, on vous dira non, c'est qui celui-là? Il n'est pas encore rentré dans... Mais ça viendra, ça viendra. Mais vous rendez compte que Toumaï est à 4 millions de plus que Lucie. Alors, ce que je viens de vous dire, là, ce bond d'un seul coup, eh ben, ça entraîne des controverses. Alors, de temps en temps, c'est sévère. Très sévère. Les scientifiques sont entre eux des gens... Enfin, on raconte une histoire dans nos milieux, toute simple. Un jour, vous l'appelez comme vous voulez... Le grand architecte, le Dieu tout-puissant selon vos philosophies personnelles. Alors regardez, là, ces scientifiques, ces savants, et il a dit, oh, je vais leur donner une maison, je vais créer l'université. Et vous savez ce que Satan a fait? Il a créé le collège. Immédiatement. Bon, c'est comme ça. Alors, il faut savoir... J'anticipe sur d'éventuelles questions, que en science ou ailleurs, la controverse est naturelle. Mais vous avez des journaux spécialisés pour ça, des journaux scientifiques spécialisés. La science, ça se fait pas dans Centre Presse, La Nouvelle République, Le Monde, Le Figaro, Le Point, je voudrais pas tous les... Le Canard Enchaîné, j'en oublie plein, mais ça se fait pas là. Ça, c'est pas de la controverse, c'est de la presse, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, ça devient un peu comme ci, comme ça. On est à une époque où... Certaines ou certains qui ont envie d'être à la lumière se servent de la presse que je viens de nommer pour attirer la lumière. Ça va pas, ça. Ça va pas, ça va pas. S'ils sont paléontologues, s'ils veulent attirer la lumière, il faut qu'ils aillent sur le terrain, il faut qu'ils trouvent des fossiles et il faut qu'ils les publient. C'est comme ça. Et je vais m'arrêter là pour ça, mais je voudrais vous faire méditer une chose. J'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont été chercher des champignons. Peut-être dimanche dernier, peut-être dimanche prochain, peut-être, je sais pas, bon, il y a une année un peu bizarre cette année. Mais quand vous allez aux champignons, vous êtes déjà allé. Alors vous partez, mettons, un samedi matin ou un dimanche matin, vous partez à 9h, avant la voisine ou le voisin. Si vous voulez trouver des girolles, vous n'allez pas dans le même coin que si vous voulez trouver des cèpes ou des truffes. Eh bien, moi, je suis parti un matin. Alors, vous revenez, vous partez à 9h, à 11h, vous revenez et vous avez au moins ramassé de quoi faire une omelette. Vous êtes... heureuse, contente, tout va bien. Vous avez trouvé des champignons. Moi, mes champignons, ils s'appellent des préhumains. Je suis parti un matin. Je suis revenu 20 ans après. J'en avais trouvé un. Et quand j'ai trouvé Toumaï, c'était 25 ans après. Alors, je vais vous dire une chose. Ça forge le caractère de celui qui cherche. Ça forge. Hein? Alors, entre-temps, c'est pas simplement une chasse aux champignons ou une chasse aux préhumains. 25 ans, dans la vie d'un humain, c'est une tranche de vie importante. Dans cette tranche de vie, en plus, j'ai un collègue, Pictave, de la Fac des Sciences, qui avait eu pitié de moi et qui m'a dit un jour, je vais aller t'aider. Il est venu. Il est mort. En mission. À ma place. Parce que c'est moi qui avais tout inventé. Alors, ne croyez surtout pas que les scientifiques sont des gens... ils sont comme vous, on est tous pareils. Et c'est pas forcément simple. Mais vous comprendrez, j'en suis sûr, que quand on a une tranche de vie telle que celle que j'ai eue, qu'on y perd un être cher dans le fond qui est mort à votre place parce que j'avais tout inventé, vous pensez bien que si on attaque ce que nous faisons, au nom de sa mémoire, je défendrai quoi qu'il arrive. Pendant longtemps, notre histoire, on a pensé que, dans le fond, on n'avait pas d'histoire. On confondait l'origine de l'univers, l'origine de la Terre et l'origine de l'homme. Et on admettait une éternité, au moins 3000 ans. La science moderne a montré que ces trois points étaient dissociés les uns des autres par des milliards d'années. Comment ? En étudiant la lumière, en étudiant les roches, en étudiant les fossiles. L'univers, c'est autour de 13 milliards d'années. La Terre, c'est un peu moins que 5 milliards. Et nous, c'est au moins 7 millions. Au moins, on trouvera peut-être plus. J'espère. Et ces 7 millions, ce n'est pas encore bien rentré dans notre esprit. Parce que, en plus, pendant longtemps, on a été fixiste avec cela. Et on a encore des tas d'expressions fixistes. Alors forcément, si vous demandez, si vous faites un radio-trottoir et que vous demandez, vous êtes fixiste, vous ? Non, tout le monde est créationniste. Ce sont nos copains, les Américains, de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont fixistes. Moi, je pense qu'en réalité, il y a 50% de la population qui est fixiste. Mais je crois qu'il y a une partie de la population qui est fixiste sans le savoir. Ouais, bien sûr. Alors, je vois bien que ça vous trouble, ce que je vous dis. Mais bon, vous me poserez des questions, j'essaierai de justifier. On est devenu créationniste il n'y a pas longtemps, hein. Quand cet homme, là, barbu, à la barbe blanche, là, ici, Darwin, a publié en 1859 l'origine des espèces, c'est la Bible de l'évolution. En 1871, il a publié un ouvrage incroyable pour cette époque. Alors, attention dans la traduction de The Descent of Man. C'est pas la descendance de l'homme, hein, c'est l'ascendance de l'homme. C'est un faux ami. Et vous vous rendez compte qu'en 1871, merci, ah ben vous voulez me faire boire, hein. Il a, à ce moment-là, alors qu'il vit dans un monde qui est complètement créationniste, il rencontre la reine Victoria, et à qui il explique que notre plus proche parent est en Afrique et que c'est un chimpanzé. Vous vous rendez compte, on est en 1871, il écrit hein, ça, hein, il écrit ça. Et à l'heure actuelle, à mon avis, je pourrais vous raconter des histoires, hein. Je vous en raconterai une après. C'est génial. Depuis, on a montré que sur le plan génétique, entre les chimpanzés et nous, il y a 1% de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1%, c'est énorme. Parce que si vous regardez un chimpanzé, si vous me regardez, il y a quand même quelques différences. Non, vous ne trouvez pas. Bon, on en parlera après. Et bon, 1% de différence sur le plan génétique. Alors, il y a un truc embêtant, hein, quand même. C'est qu'on le montre sur le plan génétique, mais si tout à l'heure vous me dites, mais vous ne nous avez pas montré de chimpanzés fossiles, eh bien, on ne connaît pas les chimpanzés fossiles à l'heure actuelle, pour le moment. J'ai fait une mission d'un mois, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les hauts plateaux du Cameroun de l'Ouest, où j'étais à la chasse aux chimpanzés fossiles. Il y a des vrais chimpanzés, mais j'ai chassé les fossiles. Je pense avoir trouvé des bons niveaux, mais je n'ai pas trouvé encore les fossiles. Il faut dire qu'on est en milieu tropical humide et ce n'est pas le désert, quoi. Hein. On avance au coupe-coupe, quoi. Hein. Donc, c'est pas évident. Quoi, hein. Mais bon, j'ai bon espoir qu'on y arrive. On appartient... Alors, on a toujours été modeste et on est encore modeste. C'est nous qui avons fait la classification. On s'est mis dans un grand groupe qu'on a appelé les primates, primates, primates. Ça veut dire les premiers, quitte à faire. Hein. On s'est mis dans les premiers. Voilà. Bon, c'est comme ça. Dans ce groupe-là, vous avez deux grands groupes. Alors, le nom bizarre ici, on l'oublie. Peu importe. Mais c'est le groupe où les primates ont, comme votre chien, comme votre chat, ils ont une truffe sur le nez. Vous vérifierez ce soir, hein, vous n'avez pas de truffe. Si vous avez une truffe sur le nez, vous me téléphonez, on fera une photo. Et vous n'avez pas. Donc, tous ceux-là, là, sont ceux qui ont une truffe, entre autres, une truffe sur le bout du nez. D'accord? Donc, on n'appartient pas à ce groupe-là. On appartient à l'autre groupe. Alors, de l'autre groupe, on va retirer ce petit bonhomme-là. C'est le tarsier. Le tarsier d'Indo-Malaisie, il n'y a plus qu'une espèce. Et c'est une bête un peu particulière. Mais il n'est pas dans notre ascendance. Donc, restent eh ben, ceux qu'on appelle les anthropoïdes. On appartient au groupe des anthropoïdes. Et globalement, chez les anthropoïdes, vous avez les singes et les grands singes. Pour une fois, l'anglais est plus riche que le français. C'est rare. Très rare. Nous, on n'a qu'un mot, singe, grand singe. Eux, ils ont deux mots. Vous avez monkey, monkey sont les singes, et les grands singes, c'est ape. Et au niveau des grands singes, eh ben, c'est ape plus human. Les grands singes et les humains. On est là ensemble. Ici, c'est un gorille. D'accord? Nous voilà placés. Sur le plan des relations phylogénétiques, alors ça a été une bombe à l'époque, en 1967, ces deux collègues, Sarich et Wilson, qui étaient à ce moment-là à l'Université de Californie à Berkeley, ils ne sont plus là, ont montré que chimpanzés et humains étaient les plus proches. Et c'était tellement proche, alors ils avaient trouvé à l'époque 2-3% d'écart. Il y a eu des chiffres fous. On disait la dernière dichotomie entre les chimpanzés et nous, c'est 1,5 million d'années, c'est 2 millions d'années. Alors, j'ouvre une parenthèse tout de suite. Là, vous avez deux sciences complètement différentes. Vous avez la phylogénie moléculaire, qui permet d'indiquer les relations de parenté entre les formes. Mais pour les datations, ils ne tiennent pas la clé. Ce n'est pas eux qui peuvent faire les datations. Parce que pour proposer des datations, ils proposent des taux de mutation constants. Or, on sait que les taux de mutation ne sont pas constants. Alors, sur des longues périodes, ça peut s'équilibrer, mais ça ne va pas. L'étalon temps, c'est le fossile. C'est le fossile. Alors, il n'y a pas très longtemps, ils avaient décrété, les phylogénistes moléculaires, que la dichotomie entre les chimpanzés et nous, c'était 6 millions. Patatrac, il y avait Touma, il y a 7 millions. Alors, il y avait deux réactions. Les uns qui disaient, bah, Touma, ce n'est pas un préhumain. Puis les autres qui disaient, Toumaï, il a eu des relations bizarres avec des guenons pendant 1 million d'années. Alors je me souviens d'un coup de fil d'un de ces phylogénistes moléculaires américains de Harvard qui me dit ça. Je lui dis, c'est simple, Toumaï est à côté de moi, je lui demande, donc je pose l'appareil téléphonique. J'attends un peu et puis je réponds, je dis, je viens de lui demander, il dit que non, c'est pas vrai. Peu de temps après, ils ont repoussé la dichotomie, on est aux alentours de 8 millions d'années à peu près pour eux. Bon, on verra, je sais pas, mais je veux dire que ce sont les fossiles qui datent. Ici, quand on était créationniste, il y avait... C'est tout, il y avait une espèce, c'était nous, Sapiens. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors regardez cette image créationniste que vous avez vue partout. Vous avez l'arbre, le singe qui descend de l'arbre, et puis vous avez le singe qui est par terre, qui est très voûté comme ça, puis qui se relève petit à petit, puis selon le produit qu'on veut vendre, ça se termine par un homme en costume trois pièces, ou par une femme avec autre chose, une robe ou pas grand-chose. C'est la lignée humaine. Et souvent, j'entends des gens qui parlent de la lignée humaine. Ben, la lignée humaine, c'est ça, vous voyez. À certains moments, la lignée humaine, il y a eu 4 ou 5 espèces de préhumains qui coexistaient. C'est-à-dire que la lignée humaine, elle est très buissonnante, hein. Ça n'existe pas, c'est un terme créationniste, ça. D'accord ? Pas employer ce terme-là. Alors, je ne vous dis pas, hein, j'ai plein de collègues hein, qui emploient aussi ce terme-là. C'est bon, c'est comme ça. Alors, où maintenant ? Où ? Écoutez, c'est simple, les plus anciens d'entre nous sont connus en Afrique. Mon colocataire, Yves Coppens, avait remarqué en 1974 que, quand ils ont trouvé Lucie, un, que nos racines étaient profondes dans le temps en Afrique, deux, que tous les sites à hominidés étaient à l'est du Grand Rift africain ou au sud. D'où son idée, sa proposition de East Side Story. En clair, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique orientale. Quand je suis parti en Afrique, ils fouillaient tout cela ou tout cela. Bon, là, il y avait des conditions particulières parce qu'il y avait l'apartheid. Enfin, c'était compliqué en Afrique du Sud. Hein, c'était très compliqué. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et, dans le fond, pour être innovant, moi, j'ai dit, je pars où personne ne voulait aller. Je suis allé à l'ouest. À l'ouest, en principe, alors j'avais deux possibilités. Ou Yves avait raison et j'allais trouver les ancêtres des grands singes qui vivent là encore. Hein. Ou il avait tort et je trouverais autre chose. La plus grande probabilité était que je trouve rien du tout. Bon, j'ai insisté un peu, hein, ça a duré 25 ans. Et j'ai fini par trouver. Mais ce que j'ai trouvé, finalement, c'est que le plus ancien, il était à l'ouest. Il est là. C'est le numéro 25. 25, c'est Toumaï. 24, c'est Abel. Mon collègue qui a perdu la vie avec nous s'appelait Abel. C'est donc en hommage à sa mémoire, Abel. On en est là pour le moment. Je ne sais pas demain ce qui se passera. Hein. J'en ai aucune idée. Alors, à l'heure actuelle, les pierres angulaires de notre histoire sont clairement en Afrique. Vous avez l'enfant de Taung. C'est le premier australopithèque décrit, le premier préhumain. Il a été décrit, vous voyez, en 1925. Il est là, en Inde, en Afrique du Sud. C'est un jeune enfant qui a la molaire de 6 ans. Vous avez Lucie, il est là. C'est le 23, là. Vous avez Ardipithecus. Alors, on devient un peu plus vieux, 4-4. Il y a la même main qui est à presque 6. On est toujours en Éthiopie. On n'est pas très loin de Lucie. Et là, on a un squelette quasi complet aussi. Puis enfin, vous avez le plus vieux qui est à l'ouest, Toumaï. Le voilà, il est là. Voilà pour le moment le fil conducteur. Mais vous savez, hein, si on met tous les fossiles les uns à côté des autres, ça n'en fait pas tellement. Hein. C'est pas facile d'en trouver. Pas facile d'en trouver. Alors, il y a un problème qui se pose à vous, à nous, parce que vous, ça vous intéresse, pourquoi ? Parce que c'est votre histoire. C'est notre histoire. Donc, ça ne vous intéresse pas de voir quelqu'un qui vous raconte la moitié de notre histoire. Vous voulez connaître toute votre histoire. Eh oui, c'est normal, je vous comprends. Les chercheurs, ils essaient de répondre à vos questions, mais souvent, ils veulent faire dire plus qu'ils ne peuvent avec les fossiles qu'ils ont. Et alors, en permanence, c'est ça. D'où des allées et venues. Alors, la dernière en date, c'est... Vous avez dû voir ça. Récemment, on vient de décrire une charmante métisse de 90 000 ans dans l'Altaï. Vous avez vu ça ? Non. Ah ben, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà Ardipithecus, la reconstitution. Regardez. Il a le pouce, là, comme vous, opposable. Hein ? Avoir un pouce opposable, ça sert à prendre. Mais il a un gros orteil opposable aussi. Regardez. Vous voyez ? Son gros orteil est opposable. Vous regarderez ce soir. Si jamais vous avez un gros orteil opposable, là, vous m'appelez tout de suite. Hein. Tout de suite. Bon, ça m'étonnerait. Mais bon, sait-on jamais. Vous avez un résumé là-dessus, ce qu'on connaît. Bon, Toumaï est le plus ancien. Ce sont les formes anciennes qui sont là. Tout ça, c'est africain. Ça, c'est encore africain. Ce sont les australopithèques sens large. Et puis ça, ce sont les gens homo. On passe et on quitte l'Afrique pour le moment. Le plus ancien d'entre nous, connu. Or, Afrique est datée à 1,8 million en Géorgie. 1,8 million. On trouvera plus ancien. Sûrement. À mon avis, ça pourra aller jusqu'à 3 millions. Mais sûrement pas plus. Sûrement pas plus. Mais à l'heure actuelle, avec ce que l'on connaît, à l'heure actuelle, sur 7 millions d'années de notre histoire, on en a passé 5 en Afrique. Quand je dis qu'on est tous africains, il y a des raisons. Hein. En plus, quand on a quitté l'Afrique, il y a entre 2 et 3 millions d'années, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a quitté. Quand on a quitté l'Afrique, on avait la peau noire. Et quand on est arrivé en Europe, en Asie, on était noir. Oui, on n'était pas blanc. Blanc, c'est une adaptation au climat froid. noir, c'est une adaptation au climat chaud. J'explique. La couleur de la peau est due à la mélanine. Et vous savez bien, pour celles et ceux qui se font bronzer l'été ou qui vont au soleil et qui ont la peau qui brunit, c'est de la mélanine. La mélanine, ce pigment, est produit par les mélanocytes. Intuitivement, quand vous voyez une peau toute noire, très foncée, vous pouvez penser que cette peau-là, elle a beaucoup plus de mélanocytes, c'est-à-dire de cellules qui produisent la mélanine, que la vôtre qui est blanche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous faites une coupe dans la peau noire ou une coupe dans la peau blanche, le nombre de mélanocytes est le même dans un cas comme dans l'autre. C'est la répartition de la mélanine qui est différente. Dans un cas, la mélanine est répartie équitablement sur l'ensemble de la peau, dans l'autre cas, partie par petits paquets. C'est simplement lié à une différence climatique. Vous imaginez ce que ça a fait faire, ça? Vous imaginez? Hein? Vous vous rendez compte? Quelque chose d'aussi simple que ça, qu'on peut vérifier. À la limite, on pourrait le faire là, ce soir, avec une loupe binoculaire très classique, qui n'aurait même pas besoin du fond Aliénor pour ça, quoi. On pourrait prendre une loupe de travaux pratiques de première année, et voilà, ça marcherait, quoi. Vous vous rendez compte que ça a fait, ça? Et ce que je viens de vous dire, là, j'ai essayé de dire ça aux États-Unis, dans les États du Sud, en l'occurrence à Birmingham, Alabama. Birmingham, Alabama, sont les États de la famille Bush, ça. C'est pas facile, hein. Je me souviens, j'avais été reçu par le conseiller culturel français à Birmingham, et il m'avait dit, demain matin, vous voulez dire quoi? Alors, je lui dis ça, quoi. Ah, il me dit, non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Il me dit, vous rendez pas compte? Et je lui dis, attendez, bon, ben alors, je fais pas de conférence. Il me dit, on va avoir des problèmes, hein. Effectivement, il y a eu des problèmes. C'était, bon, c'est étonnant, mais bon, c'est comme ça, hein. Naturellement. Quand on fait appel à la couleur de la peau, on en profite pour dire il y a la race blanche et la race noire. Non, mais je veux dire, on entend ça tous les jours dans les informations. Vous prenez un journal et vous voyez ça. Enfin, attendez, je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Je suis en train de vous parler science. Je parle de science. C'est fou, non ? Quand vous pensez qu'à l'heure actuelle, au Myanmar, j'ai un de mes collègues qui, de la fac à Poitiers, qui occupe le bureau l'autre côté du couloir par rapport au mien, qui rentre du Myanmar. Le Myanmar, c'est l'ancienne Birmanie. Bon, vous savez ou vous ne savez pas, mais les gens, les ex-Birmans, là, ils ont expulsé. Et c'est un nettoyage ethnique. Les Rohingyas qu'ils ont poussés dans des zones inondables, en dehors de l'ex-Birmanie. Et vous savez pourquoi? Ils les considèrent pas comme des humains. Ils les considèrent pas comme des humains. Vous vous rendez compte ce qu'on est capable de faire? Vous vous rendez compte? Et alors, tous ces principes, tout ce que je suis en train de vous dire là, il y en a un qui a voulu faire ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait une petite moustache sous le nez là. Hein? Qui voulait faire une race pure. Ben, ça n'a pas servi de leçon. Ça n'a pas servi de leçon. S'imaginer. Je vous conseille, je me permets cela, allez voir l'exposition « Tous humains » qui est cachée derrière le logo, la Sort Optimiste. Et vous verrez, les races, ça n'existe pas. Les races humaines, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas scientifique. Vous avez des races de chiens, mais vous savez comment on obtient des races de chiens ? Par sélection. Et si votre voisine a un chihuahua et vous un dalmatien, ben il faut espérer pour le chihuahua que c'est lui le mâle et le dalmatien la femelle. Hein, parce que si c'est l'inverse, pauvre petit. L'ancêtre, c'est le loup, Canis lupus. Mais ces races, il y en a plus de 100, on les a obtenues comment ? Mais en sélectionnant, sélectionnant. Et alors, c'est ça qu'on veut faire avec l'espèce humaine ? Non. Non. Il y en a un qui a voulu le faire. Alors, ce qui me trouble, c'est que c'est pas vieux ça. Et on a l'impression que tout le monde a oublié. Je crois qu'il faut pas, hein. Il faut pas. Alors ça, c'est l'histoire, vous voyez, du Tchad, la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, la MPFT. Vous voyez, il y a quand même 25 années de mission, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Il y a 500 sites nouveaux, on a plus de 20 000 spécimens, on travaille dans le désert. Voilà notre terrain de jeu, tout ce qui est vert, hein, regardez, tout ça. Ça, c'est le bassin du lac Tchad. Le lac Tchad actuel, c'est ça. Mais périodiquement, le lac Tchad, il devient un méga Tchad. Et il y a 5000 ans, voilà, le tracé du bord du lac Tchad, il y a 5000 ans. C'est tellement grand qu'on appelle ça le méga Tchad. À ce moment-là, il fait 400 000 km carrés. C'est aussi grand que la mer Caspienne. Le Sahara est un désert intermittent. Tantôt vert, tantôt désert. Tantôt vert, tantôt désert. On trouve forcément les hominidés quand la période est humide, c'est-à-dire quand c'est vert. Notre terrain de jeu, c'est ça, donc c'est facile, vous voyez, c'est tout petit. C'est, ce qui est vert, là, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est 5 fois la France. Ça fait un joli terrain de jeu. Mais quand vous êtes même à 10 là-dedans, vous vous sentez tout petit, hein. Regardez comme c'est beau, c'est un désert de dunes. Les Barkhanes, forcément, sont orientées comme le vent. Hein. Djamena est là, le lac Tchad est là. On travaille là. Entre là et là, il y a à peu près 800 km. Entre là et là, il y a à peu près 300 km. Je crois qu'il y a bien, sur le trajet, il doit y avoir 25 km de route en bitume. Le reste, c'est du hors-piste. C'est très joli. C'est pas bon pour les vertèbres. Hein. C'est pas très bon pour les vertèbres. Mais c'est très beau. Très, très beau. Alors, il faut beaucoup de voitures. Parce que ce qui vous tient la vie, hein, c'est la voiture. Quand vous êtes rendu à 800 ou 1000 km de Djamena, vous ne rentrez pas à pied. Hein. Vous ne rentrez pas à pied. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Donc, c'est la voiture qui vous ramène. Donc, il vous faut une voiture qui ne tombe pas en panne, Une voiture, ce n'est pas suffisant, il en faut au moins deux. Parce que s'il y en a une qui tombe en panne, vous en avez une deuxième. Il vous faut de l'eau. Il vous faut du gazoil pour mettre dans la voiture. Quand vous avez de l'eau, du gazoil, deux voitures, des citrons verts pour éviter les carences, des dattes séchées. Avec ça, vous pouvez vivre, pas de problème. Vous mettez votre citron dans votre bouteille d'eau, vous mangez vos dattes séchées et vous conduisez. C'est le luxe. Ouais. Le luxe. Alors, depuis un certain temps maintenant, on n'a plus le droit de coucher au même endroit. Il faut être nomade, au sens strict du terme. Alors, on est nomade. Nomade, ça veut dire rien. Pour être nomade, il faut ne rien posséder. Ne rien posséder. Que l'essentiel. Et c'est là où on se rend compte que dans nos sociétés, mon Dieu, on possède tellement de choses. Quand vous rentrez là, après 2 mois de désert, où vous n'aviez rien, vous vous dites, mais pourquoi j'ai tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Il y a plein de choses qui vous créent plus d'ennui, oui, que de services, plein. Bon. La vie dans le désert. Alors, on joue aux Indiens, regardez. On met les voitures en rond parce qu'il y a des fois des rencontres qui sont pas terribles. On dresse une table au centre. Voilà la table de plus près. Ça, c'est un petit déjeuner le matin. Et puis voilà, on se balade à genoux dans des positions qui ne sont pas toujours très bonnes. On a tous mal aux genoux. On a beaucoup de prothèses de genoux à partir d'un certain âge. Alors malheureusement, on ne fait pas de prothèses de dos, parce qu'on en aurait beaucoup aussi. Et puis quand vous trouvez une belle pièce qui est fragile, eh bien, on plâtre. Voilà, ça c'est la vie dans le désert. Regardez, quand on est géologue, tout ça c'est plat. Alors pour avoir des coupes, eh bien, le géologue il fait son trou. Il est là au fond du trou. Là, on est en train de dégager une grosse mandibule de crocodile, vous voyez. La vie tourne, cet homme-là est déjà mort. Il est déjà mort. Ici, il y a des gens, tiens, pour les poids de vin, il y a celui-là, là. C'est un dentiste qui est bien connu à Poitiers, Pierre Fronty. Sûrement que parmi vous, il doit y avoir des gens qui connaissent Pierre Fronty. Eh bien, le voilà, ici, c'est lui qui est agité. Qui avait son cabinet rue des Écossais. Voilà, c'est la vie dans le désert. Regardez comme c'est beau les Barkhanes. Regardez comme c'est beau. Voilà Fronty, de plus près. N'est-ce pas? C'est bien lui. Celui-là, vous devez le connaître aussi. Voilà, celui-là est un Sud-Africain. Alors, ce qui est bien aussi dans notre métier, c'est que c'est complètement pluridisciplinaire. D'ailleurs, ce n'est pas un métier, le mot n'est pas bon. C'est une passion, c'est différent. Et c'est très mélangé, quoi. C'est absolument mélangé. Et alors, vous voyagez beaucoup, quoi. Vous voyagez un peu, quoi. J'ai tourné autour du monde... Ça fait un demi-siècle que je tourne autour du monde, quoi. Hein. Et vous voyez, il y a beaucoup de fossiles. Hein. Beaucoup. Et alors, pendant un moment, on a été protégés par la Légion étrangère. C'était l'époque où, vous savez, ou vous ne savez pas, mais si, vous savez, qu'au Tchad, à N'Djamena, vous avez la mission Barkhane à l'heure actuelle. Avec 4000 soldats français, un peu plus de 4000. Et avant, vous aviez la mission Épervier avec 1200 soldats. Et la mission Épervier, au départ, c'était nos troupes là, d'enfants de cœur, les légionnaires. Hein. Et je me souviens d'une année. Alors, on travaillait avec les légionnaires. Les légionnaires venaient s'entraîner en milieu aride. Et mon camp de base leur servait de camp d'appui. C'est-à-dire que j'avais un hélicoptère dans mon camp de base et j'avais toutes leurs réserves de kérosène dans mon camp de base. D'accord ? Et je me souviens de la première fois qu'ils sont arrivés au camp de base, ils nous ont regardés et on était en train de balayer le désert. C'était un capitaine qui les accompagnait. Le capitaine est venu me voir tout de suite. Bonjour professeur, bonjour capitaine. Il me regarde, j'avais un balai. Et il me dit, parce que vous aussi, professeur, vous balayez. C'est drôle, hein? Et quand on s'est couché le soir, je me souviens d'une autre remarque. Le capitaine vient me voir et il me dit, vos pistolets mitrailleurs sont où? Je dis, mais on n'en a pas, capitaine. On n'est pas là pour ça. Vous dormez comme ça. Et oui. Et oui. Bien sûr. Mais donc, j'ai fait des rencontres étonnantes dans ma vie. Bon, ce sont des anecdotes. Hein. On balaye le désert. On tamise ce qu'on a balayé. Et vous voulez que je vous dise? Allez. Toutes les 100 tonnes. Vous avez un reste d'humain, de préhumain, dont vous pouvez dire que c'est du préhumain. Hein. Ce n'est pas forcément intéressant. Ça peut être une esquille, à peu près toutes les 100 tonnes. Bon, c'est pas mal, non? Je vous montrerai tout à l'heure des photos en Antarctique, vous allez voir. Alors, ça a ça de bien. Ah, celui-là est mort aussi depuis. C'est un Hollandais qui était spécialiste de micro-mammifères. Et vous voyez, hein, on travaille tard le soir. Hein. Mais ça marche. Regardez, il y a des petites dents. Ça marche. Ça marche. Alors après, on l'étudie. Alors, on a... Alors, ça, c'est ce dont je suis le plus fier. On a formé des Tchadiens, Poitiers. Quand je suis arrivé au Tchad, on m'a dit, tu fais quoi, toi? Je lui ai dit, je suis paléontologue. C'est quoi, ça? Je lui ai expliqué. On m'a dit, ça, c'est un métier de riche. Nous, on est pauvres. J'ai dit, je fais ça et je forme des paléontologues. OK, donc, les deux premiers paléontologues que j'ai formés, c'est celui-là, Mackay, et celui-là, Lekius. Alors, ils ont mal tourné. Celui-là est devenu ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ouais. J'avais fait promettre à Idriss Déby de jamais les prendre. Il n'a pas tenu sa promesse. Je l'ai engueulé quand j'ai vu la dernière fois. Et celui-là, mais il a été sorti depuis. Hein. C'est comme chez nous, ce sont des postes sur siège éjectable. Quoi, hein. Et celui-là est recteur, mais c'est un poste éjectable aussi. Hein. Bon. Et... On n'avait pas de salle pour mettre les fossiles à N'Djamena. Je suis arrivé à convaincre le conseiller culturel qui, à l'époque, avait sa cassette personnelle de mettre sa cassette à disposition pour construire un local, ce qu'on a fait. On a construit un local et là, les fossiles sont à N'Djamena. Ça, c'est à Poitiers, à la Fac des sciences. Quelques fossiles, vous voyez, on a des crocodiles, forcément, il y a de l'eau, il y a beaucoup de poissons, beaucoup, beaucoup de poissons. Donc, il y a beaucoup de crocodiles ichtyophages, c'est-à-dire qu'ils mangent du poisson. Ça, c'est un cousin des hippopotames, un crâne, mais ce n'est pas un hippopotame, c'est un anthracotère. Voilà la mâchoire inférieure, voilà le crâne. Ça, c'est un gros sanglier. Très gros. Ça, c'est le crâne. Ça, c'est la mâchoire inférieure. Ça, c'est le crâne vu en face latérale. Et là, vous avez la troisième molaire d'un éléphant. C'est l'ancêtre de l'éléphant d'Afrique actuel. D'accord ? Ça a 7 millions d'années. C'est au même niveau que Toumaï. C'est dans le site où on a trouvé Toumaï. À l'heure actuelle, au Tchad, on a trouvé des sites entre 3 millions et 7 millions d'années. On va lancer maintenant une campagne de fouilles pour trouver entre 3 millions et 10 000 ans. C'est-à-dire qu'on va chercher les premiers représentants du genre Homo, qui se situent dans cette période de temps. Est-ce qu'on les trouvera ? J'ai bon espoir. Si on les cherche, on finira par les trouver. Il s'agit d'un peu de patience et tout. On trouvera. Si on cherche, on trouvera. Voilà Toumaï. C'est son meilleur profil. Hein. Il est plus déformé que ça. Hein. Dessous, vous avez notre camp de base à l'époque. C'était des tentes réglementaires de l'armée de la Légion étrangère. On était bien équipés, quoi. Hein. Mais je vous dis pas, hein, on a subi une tempête un jour, mon Dieu. Enfin, bref. L'histoire que je vous raconte a été publiée dans les meilleures revues de notre discipline, en l'occurrence Nature. C'est pour ça que c'est indiqué. Le désert est très beau, hein. C'est très très beau. Alors, on a fait de l'imagerie 3D. Voilà la pièce originale. Voilà la canine, là, la voilà en gros. Vous voyez, cette canine, elle est très réduite. Elle n'est pas comme la canine de votre chien, ni comme la canine d'un gorille ou d'un chimpanzé. Elle est déjà très réduite. Par contre, la couronne est réduite, mais regardez la racine. Regardez comme elle est longue. Alors, il n'y a qu'une canine, bien sûr, c'est le principe de la duplication. Hein. En fait, c'est de l'imagerie 3D classique. Et regardez, la voilà en coupe. On est en scadère, là. Vous imaginez, elle n'est pas là pour faire de la figuration, la canine. Hein. Elle est bien plantée, hein. Vous imaginez si vous aviez une canine comme ça, avec une racine comme ça, et qu'il faut l'enlever. Waouh. Hein? Pas mal. On emploie les techniques modernes de tout ce qui est radiographie en médecine. Mais les appareils, les scanners de médecine n'ont pas assez de puissance. Ces imageries-là ont été faites au synchrotron de Grenoble, en image synchrotron. Alors, on arrive à des puissances beaucoup plus fortes qui vous donnent des images qui sont beaucoup plus contrastées. Hein, beaucoup plus contrastées. Alors, ça dépend de la grosseur de la bête. Hein. Maintenant, au labo, on a un scanner et on peut faire directement sur place un certain nombre de choses. Mais bon, ça a évolué, ça aussi. Hein. Alors, l'imagerie, après, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. C'est de la manipulation de fichiers électroniques. Hein. Faites apparaître les dents avec leurs racines. Vous pouvez prendre ces dents-là et sur une imprimante 3D les copier. Et donc vous pouvez étudier les dents, et les couronnes et leurs racines sans toucher la pièce. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Alors il faut un peu de matériel, quoi. Ça coûte un peu cher, quoi. Et c'est évident qu'on ne peut pas se payer un synchrotron comme ça. Le synchrotron, à l'époque, quand on a travaillé, maintenant il y en a un deuxième, mais le premier synchrotron sur lequel j'ai travaillé, moi, c'est à Grenoble. Et c'est un équipement européen. Maintenant, il y a un synchrotron à Paris. Voilà Toumaï. Regardez comment il est déformé. Vous le voyez, là ? Hein, tout à l'heure, il vous montrait son meilleur profil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a déconstruit et on l'a reconstruit. Et regardez, on a même reconstruit, j'ai fait faire une thèse d'ailleurs là-dessus, son oreille interne, avec les trois canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace. C'est d'une précision redoutable. Hein. Alors, ça ne se fait pas aussi vite que je le dis. Hein. C'est évident. Mais on y arrive avec un peu de patience et de temps. On y arrive. Quand vous faites ce type de recherche, il faut laisser le temps au temps. Ça, c'est la même chose, mais on compare Toumaï aux gorilles et aux chimpanzés. Toumaï, il est là. Chimpanzés, ils sont là et là. Les gorilles, ils sont là. Simplement, Toumaï a une face occipitale qui est beaucoup plus relevée, enfin non, qui est beaucoup plus inclinée vers l'arrière. Vous avez une bascule du crâne qui permet, qui est en accord avec la bipédie. Alors, il y a eu des polémiques, il y a eu des controverses, il y a eu plein de choses, hein. Bon, je passe, mais je suis prêt à y répondre si vous avez des questions après. Alors, on s'est amusé, puisque j'ai des collègues qui voulaient que Toumaï ne soit pas un mâle, mais une femelle, et qui voulaient en plus que ce ne soit pas un préhumain, mais un gorille. Donc, j'avais trouvé une tête de gorillette femelle. J'étais donc le seul au monde à avoir une gorillette femelle bipède. Parce que le crâne est clairement un crâne de bipède. Alors qu'à cela ne tienne, on peut faire des tas de choses. On a refait la reconstruction de Toumaï. On a pris un crâne de gorille. On a mis un certain nombre de points de repère sur les gorilles, sans tous les points rouges. On a pris les mêmes repères sur un crâne de chimpanzé, sans les points verts. Et on a pris les mêmes repères sur le crâne de Toumaï. Ils sont là. On avait deux copies du crâne de Toumaï. Une, deux. Après, c'est simple. On a pris ces points, ces deux points, et on les a poussés pour qu'ils aillent tangenter la courbe rouge, c'est-à-dire pour le transformer en gorille. Voilà ce qui se passe. Le crâne éclate. À certains endroits, se resserre à d'autres. On a fait la même chose pour le transformer en chimpanzé, pour l'amener là. Regardez le crâne, certaines régions se recouvrent, d'autres éclatent complètement. La conclusion, c'est que le crâne de Toumaï n'est ni celui d'un chimpanzé, ni celui d'un gorille. Bon. On ne va pas recommencer. Alors, pour la bipédie, regardez, si je trace la droite perpendiculaire à l'orbite, là, qui est appelée PO, Orbital Plane, le plan orbitaire, et si je prends la droite qui prend le plan du foramen magnum, c'est-à-dire du trou occipital, par là que sort la moelle épinière. Ces deux segments de droite font un angle qui, globalement, est voisin de 90 degrés, ou un peu plus. Si je fais la même chose, chez un chimpanzé, un troglodytes, chez le chimpanzé commun, voilà le plan du foramen magnum, voilà le plan orbitaire, regardez, j'ai un angle aigu. Ça, c'est quadrupède, ça, c'est bipède. Je continue. Je prends le petit bonhomme, là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était le premier australopithèque connu, Australopithecus africanus. Ben, regardez, je fais la même chose. eh bien, j'ai un angle qui est presque de 90 degrés. Il est bipède. Et si je fais la même chose chez Toumaï, on a un angle de 90 degrés à peu près, ou un peu plus. Toumaï a un crâne de bipède. Alors, je voudrais dire, parce que vous avez sûrement vu ces trucs idiots qui ont été publiés sur un fémur que j'ai qualifié de sans queue ni tête. En effet, ce qui est important sur un fémur, ce sont les deux épiphyses. Elles ne sont pas conservées. On a juste les diaphyses. Juste les diaphyses, c'est tout. Bon. Quelle que soit la diaphyse, quelle qu'elle soit, on n'a jamais vu un fémur entrer en articulation avec un crâne. Donc, ça appartient peut-être à Toumaï, mais c'est pas, personne ne peut le montrer, personne ne peut le prouver, personne, absolument personne. On peut pas. Il me faudra une colonne vertébrale, il faudra un bassin, puis voilà, bon, c'est comme ça. Mais on a raconté n'importe quoi, mais n'importe quoi, pourvu que ça fasse des bulles et de la mousse. C'est un moyen d'attirer la lumière sur soi quand on n'a rien sous la main. Quand on n'a rien trouvé et qu'on n'a rien à dire. Ah ben, on attire la lumière. Alors, comment ils disent, là? Les fake news. C'est pas de la science. C'est pas de la science. Pas de la science. Voilà, on m'a posé la question tout à l'heure. Eh bien, voilà. On a coupé le crâne de Toumaï en 800 tranches. On l'a coupé virtuellement. Sur chacune des 800 photos, on a paramétré chaque petit bout d'os. Et puis, on a un logiciel qui permet de reconstituer, et on a un autre logiciel qui permet de corriger les déformations. On appelle un logiciel de rétro-déformation. De telle sorte qu'on est passé de ça. Par ce stade-là, on a paramétré chaque petit bout, par ces stades intermédiaires pour arriver à ça. Et voilà, on a reconstruit Toumaï tel qu'il était, telle qu'était sa forme le jour de sa mort, il y a 7 millions d'années. Alors, je viens de mettre, je ne sais pas, 20 secondes pour vous expliquer ça. Ça dure plus longtemps que ça, hein, en réalité. Hein. J'ai passé des nuits et des nuits au scan dans le trou de Grenoble. C'était l'été et il faisait très chaud. Mais venue une autre idée. Quand vous avez un crâne, à l'intérieur du crâne, il y a le cerveau. Chez les mammifères, le cerveau, le crâne, c'est une boîte bien pleine. Et vous avez le cerveau qui s'imprime sur la table interne. Il y a une table, il y a deux tables osseuses dans un crâne. La table externe et la table interne. Le cerveau s'imprime sur la table interne. Donc, m'est venue à l'idée que j'allais mettre une thèse sur la reconstruction du cerveau de Toumaï. Pas de chance. La table interne s'était effondrée à l'intérieur. Alors, j'ai fait le pari que tous les morceaux devaient être à l'intérieur. Ça a été un boulot absolument énorme. Le jeune Thésard a mis pratiquement un an pour reconstituer. Il est arrivé. Thibault, bienvenue. Il est chercheur à Zurich. Il est arrivé à reconstituer le cerveau de Toumaï. Voilà le cerveau de Toumaï. Et alors, ce qui est extraordinaire, quand on a pris le cerveau qu'il avait reconstitué, parallèlement, on a pris le crâne qu'on avait reconstitué. Donc voilà le moulage. Et c'était merveilleux. Le cerveau reconstitué rentrait bien dans le crâne reconstitué. Cerveau, 380 cm3. Hein? L'homme de Florès fait 400. Vous savez, le petit bonhomme qu'on a trouvé en Indonésie, 400. 400, c'est les chimpanzés, quoi. Hein? Nous, la moyenne, c'est 1400, 1500. Ah ben oui, mais il y a 7 millions d'années. Hein. Voilà. Alors, ceci étant, on a trouvé sur les cerveaux de Toumaï, il y a déjà des lobes frontaux qui sont élargis. Vous savez que c'est là que se passent les choses importantes. Toute la cognition, c'est là que ça se situe. Hein. Quand vous avez un crâne complet, eh ben, vous essayez de lui donner de la vie. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, voilà. Alors, j'ai trouvé, il y a une artiste française, parisienne, Elisabeth Dénès, qui fait ça très bien. J'ai choisi de l'argile de Limoges. Vous savez, cette argile qui fait la merveille en vaisselle, qui fait la belle vaisselle de porcelaine. Eh bien, c'est ça, c'est ça. Hein ? Elle a servi là à faire des muscles à Toumaï. Quand il a été fini, alors on l'a fait la bouche ouverte parce que j'ai discuté longtemps avec Toumaï. Et je voulais absolument garder en souvenir cette photo où lui et moi, on parlait. Voilà la photo. Quand le moule, la reconstitution a été faite, alors forcément il fallait humidifier en permanence l'argile. C'était compliqué à garder. Elisabeth Dénès a fait un moulage de ça. Quand le moulage a été fait, elle a fait un tirage en élastomère très dur. C'est ça. Sur cet élastomère, tirage, on a piqué des poils, des vrais cheveux, des vrais cheveux. Et là, dans son atelier, des piqueuses qui ont piqué des cheveux. Je ne vous dis pas, hein, c'est du boulot. Hein. Bon, moi, j'ai choisi les prothèses oculaires. On s'est mis d'accord comment les mettre pour qu'ils vous regardent bien. À partir de ses dents, on a fait des prothèses en porcelaine, comme Pierre Fronty aurait fait dans son cabinet. Enfin, pas lui, mais son prothésiste. Il a donc des prothèses en porcelaine de ses dents. Et je vous assure, hein, je suis convaincu que s'il avait fait à Madès France une blague, ou à côté, au musée Sainte-Croix, et s'il y avait des affiches « Wanted » avec son portrait, on le retrouverait. Hein. À mon avis, c'est très ressemblant. Voilà l'allure qu'on avait il y a 7 millions d'années. Alors, vous noterez avec moi il n'y a pas de front. Il n'y a pas de front. De telle sorte que quand vous voulez faire un documentaire sur Toumaï, vous ne pouvez pas trouver de figurants. Parce que des figurants qui n'ont pas de front, ça n'existe pas. Qui n'est pas de front ? Il y a le bourrelet, là, c'est tout. Ça viendra après. Ah ben si, il fait 380 cm3. On est né dans des paysages mosaïques, le delta de l'Okavango. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous gagnez un voyage là, il faut y aller. Hein. C'est un endroit merveilleux, merveilleux. C'est au nord-ouest de l'Afrique du Sud. Continue, hein, il y a une frontière commune. L'Okavango, c'est 1 million d'éléphants. Non, le Botswana, c'est 1 million d'éléphants, 900 000 habitants. Il y a des moments à des points d'eau où je me suis trouvé avec la Jeep. J'étais pas rassuré, hein, il y avait plusieurs centaines d'éléphants autour de moi. C'est un endroit merveilleux, merveilleux. Ce sont des paysages mosaïques où vous avez de l'eau, de la prairie et des zones boisées. D'où le nom de mosaïque. Vous trouvez tous les paysages. Je pense très fort. J'ai publié et écrit des choses comme ça. Je pense que nous sommes nés dans des paysages mosaïques. Et là-dedans, au départ, on avait le choix. Ou on habitait la prairie, où on habitait la savane arborée, où on habitait un endroit plus boisé. L'ardipithèque que je vous ai montré tout à l'heure, c'est clair, il habitait un endroit complètement boisé. Toumaï, il habitait plus une savane arborée. Alors, au passage, Toumaï, dans sa savane arborée, maintenant, vous vous rendez compte, on a travaillé très dur sur ce site. Quand on l'a publié, on connaissait à peu près 25 espèces associées. Maintenant, on en a plus de 100. Plus de 100. Dont 5 espèces différentes de félins à canines supérieures en lame de sabre. Et ces 5 félins vont de la taille d'un lynx, qui est un gros chat, hein, à la taille d'un gros tigre de Sibérie, 500 kilos. OK ? Ça veut dire que quand vous avez comme voisin l'équivalent d'un grand tigre de Sibérie, il faut être capable, un, de courir, deux, de grimper aux arbres vite fait. Je pense que Toumaï avait toutes ces capacités-là. Toutes. Toutes. Alors voilà. Vous avez en bleu les Australopithèques. Vous avez Abel. Abel est le premier point bleu trouvé à l'ouest de la rift. Lee Side Story disait tout à l'est. Ben non. Mais ça s'est gâté beaucoup. C'est que les deux points rouges là sont à 6 millions d'années. Aurorine, c'est le groupe du muséum à Paris qui prétend que Toumaï, c'est une paléogoriette. Ardipithecus, c'est ce que je vous ai montré, c'est le groupe de Tim White, University of California at Berkeley. Ils sont à 6 millions. Si vous saviez le plaisir que mon équipe et moi-même avons eu en ayant, parce que les datations étaient faites déjà depuis un moment et j'étais convaincu que les sites où on était, on allait trouver. Plus que ça, je savais qui allait trouver. Et j'ai dit à celui qui allait trouver, c'est un Tchadien, j'ai dit, c'est toi le meilleur chasseur de fossiles, c'est toi qui le trouveras. Ça s'est passé comme ça. C'est lui qui l'a trouvé. Et on avait 1 million de plus que les Américains. 1 million de plus. Mais les Américains faisaient la tête. Hein. Et on a fait tout ça à moindre frais par rapport à eux. Hein. Mais beaucoup à moindre frais. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas fait un métier. J'ai vécu une passion que je continue à vivre. C'est comme ça, j'ai de la chance. Je continue à vivre, je vais partir en mission dans le désert bientôt. Et toute ma vie, j'ai joué à ce que vous avez joué et que j'ai joué le peu de temps, moi, que j'étais à l'école primaire, parce que je suis allé à l'école très tard pour des raisons de conflit mondial. À l'école primaire, j'imagine que vous avez joué à ça. On joue à être le plus grand, le plus petit, le plus gros, le plus quelque chose. Eh bien, nous, on joue à avoir le plus vieux. Vous vous rendez compte, un petit jeune comme moi, je continue à jouer à avoir le plus vieux. C'est sympathique, non ? Alors, bon. Tout ça, on l'a publié dans les plus grandes revues scientifiques. Bon, ça, vous voyez que ce n'est pas une lignée, mais que c'est très buissonnant, hein, très. Et je vous ai montré au départ, à certains moments, vous avez 4 ou 5 espèces différentes. Hein. Pas des races, des espèces. Voilà. À l'heure actuelle, vous avez deux espèces de chimpanzés. Avec ces deux espèces, ils sont moins de 100 000. Il n'y a plus qu'une seule espèce d'humain, mais avec cette espèce, on est maintenant plus de 7 milliards et demi. Bientôt, la planète sera trop petite. Bientôt. Oui. C'est une réalité. Alors, il y aura sûrement une régulation. Permettez-moi, madame, vous qui en doutez, d'espérer que cette régulation soit simplement naturelle, pas artificielle. Parce que faire des régulations, jusqu'à maintenant, on les a faites de manière très brutale, en faisant des guerres. Si on peut éviter ça, ça me paraît mieux. Ça me paraît beaucoup mieux. Mais je crois qu'il faut être optimiste. Eh oui, si on n'est pas optimiste, bon, bah, c'est pas la peine, quoi. Hein. Il faut être résolument optimiste. Et moi, qui ai fait de l'enseignement pas longtemps, mais bon, j'ai quand même, un demi-siècle d'enseignement derrière moi. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Je crois beaucoup, beaucoup à l'enseignement, à l'éducation. Beaucoup. Et je pense, moi, que les enfants sont eux qui éduqueront les parents. Regardez, il s'est passé quelque chose qui me semble très typique de cela. Se laver les dents. On a expliqué aux gamins à l'école qu'on pouvait se laver les dents, mais que pendant qu'on se lavait les dents, on prenait d'abord de l'eau, et puis on fermait le robinet, on se brossait les dents, et puis après, pour se rincer les dents, on rouvrait le robinet. On ne le laissait pas couler tout le temps. Eh bien, ce sont les enfants qui ont appris ça à leurs parents. Et ça marche. Ils le font maintenant. Eh bien, ils leur apprendront autre chose. Ils leur apprendront autre chose. Et je vous assure, par ailleurs, je partage ma vie entre l'étranger, 6 mois de l'année, les Pictaves, 3 mois de l'année, les Parisiens, 3 mois de l'année. On est à 12. Quand je suis dans la région parisienne, que je passe à Meudon le matin et que je vois la couche de pollution, ça, c'est orange comme une tempête de sable. Comme une tempête de sable. Et quand vous vous dites, je vais descendre là-dedans, et c'est horrible. On ne pourra pas continuer à vivre comme ça. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Et moi, je crois qu'il y a une prise de conscience collective et que ce sont les enfants qui aideront à faire changer des habitudes qui ne sont pas nécessaires. Hein. On fait des tas de choses. Vous trouvez normal qu'on lave notre voiture avec l'eau qu'on boit ? Non, bien sûr que non. Trouver normal, ça, c'est... Enfin, on lave la voiture avec l'eau qu'on boit, alors qu'on sait que l'eau est une réserve limitée, c'est pas illimité, c'est une réserve limitée. Et on sait que tous les soirs, il y a plus de 2 milliards d'homo sapiens qui se couchent sans avoir bu à leur soif. On peut pas défendre ça, c'est pas possible, enfin. C'est pas possible. Alors, je pense que ces aménagements, ils viendront par l'éducation. Alors, vous me direz que je suis un doux rêveur. OK. Mais il faut l'être, sinon, ça va pas, quoi. Hein. Il faut. Voilà le résumé. Toumaï appartient à cette première nappe. Vous avez celle des Australopithèques et puis celle des Homo. On passe, on quitte l'Afrique, pour le moment, à 1,8 million. Et quand on quitte l'Afrique, on est noir. C'est comme ça. Il y a d'ailleurs des vierges noires. Hein. Bon, il y a plein de choses encore à trouver. Hein. Plein. Non, bah oui, il va se passer des choses, il va se passer un moment où on va être trop nombreux. Donc il va y avoir une régulation. Simplement, ce que je souhaite, c'est que cette régulation ne soit pas la guerre. Écoutez, il faut croire à certaines choses. Et je pense que parmi nous ici ce soir, il n'y a pas que des gens de 25 ans. Donc, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, il faut croire à un avenir qui soit digne de ce nom. Il faut. On n'a pas le choix. Il faut. Alors, si chacun apporte sa contribution, tous ensemble, on arrivera à quelque chose. Tous ensemble, on arrivera à quelque chose. Et moi, je crois que les enfants, donc l'éducation, ont un rôle extrêmement important. Et vous vous rendez compte, on habite un pays merveilleux. C'est le pays de Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire et gratuite pour tout le monde. Ça, c'est un progrès énorme. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'aussi important qui va se faire à l'école. On a toujours le droit de rêver. Tout ce que j'ai raconté, c'est un travail. Dans mon équipe, il y a une centaine de chercheurs de 10 nationalités, ce qui est merveilleux. Ça permet plein d'échanges, ça permet plein de choses. Ça m'a permis de beaucoup voyager. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de chefs d'État. J'ai eu des copains parfois peu recommandables. J'ai visité Kadhafi dans son bunker en Libye, dans le désert, pour avoir des visas. Eh ouais. Bon. Je ne le regrette pas. Je le regrette pas. C'était Chirac qui m'avait emmené dans ses bagages. Et je suis retourné. Kadhafi m'a dit, il faut venir me voir à Sirte. Je suis allé à Sirte. Vous voulez que je vous dise, Kadhafi, le cadeau de Chirac, ce que c'était? Là, ça va vous laisser pantois. L'esprit des lois de Montesquieu. Qui aurait deviné dans la salle, ça? Personne. Personne. Alors, il m'arrive des fois des choses étonnantes. La dernière fois que j'ai rencontré le président Idriss Déby, qui est président de la République du Tchad, m'a dit, moi, je suis président de la République du Tchad, mais vous, vous êtes le père de la nation tchadienne. Alors, il m'a donné un passeport. J'ai un passeport tchadien, un passeport diplomatique tchadien. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle qui ont ça. Et c'est aussi un des aspects de ce métier ou de cette passion où vous rencontrez plein de gens d'ethnies très différentes, avec des cultures très différentes, mais tout le monde est intéressé parce que c'est notre histoire. Et alors les politiques, ils ont tous envie d'être le berceau de l'humanité. Tous. Je parlais d'Idriss, là. Bon, d'Idriss, on se connaît depuis 25 ans. Donc, maintenant, on est devenus plus proches, on se tutoie. Et il me dit, mais pourquoi tu publies pas que le Tchad, c'est le berceau de l'humanité? Je lui dis, mais tu veux que ça devienne aussi faux que ce copain s'est publié? Il faut pas. C'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. Alors, je me suis battu auprès de lui. Il a été, il n'y a pas longtemps, président de l'OUA, l'Organisation africaine, de l'Union africaine. Et je lui disais, il faut que ce symbole fort apparaisse au niveau de l'Union africaine et il faut dire que L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bon, ils sont réticents parce qu'il ne veut pas donner son berceau. Il ne veut pas. C'est drôle, mais il ne veut pas. Il ne veut pas partager avec les autres. Bon. Ce n'est pas mon travail, c'est le travail de toute une équipe. Alors, ceci étant, il faut gérer, quoi. Hein, il faut gérer. Mais bon. J'adore cette photo. C'est notre petit Fennec fétiche. Il était sur le site d'Abel. Il avait là son terrier et il avait une oreille cassée. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et naturellement, j'essaierai de répondre à vos questions. Ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, posez-les. De toute manière, il n'y a pas de problème. Vous arrivez avec vos questions et moi avec mes réponses. Donc, oui.
Comment on choisit un site ? La plus c'est grand.
Alors, croyez-vous que s'il y avait une méthode, j'aurais mis 25 ans. C'est compliqué. Il y a des tas de paramètres. Beaucoup de paramètres. Alors, rien, tout ce qui vient de l'espace vous permet d'avoir des photos aériennes sur lesquelles vous voyez beaucoup de choses. Hein. J'ai fait une méharée en Afrique, en Libye. J'ai fait une méharée dans le Sansi Mazouk Basin. C'est au sud de la Libye. Les dunes sont à 250 mètres. Quand je suis arrivé là, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu. J'ai trouvé les coupes là-dessus, sur Google Earth. Sur mon portable, hein. Je regardais Google Earth et je regardais le bassin de Merzouk. J'ai noté les coordonnées sur Google Earth. Je me suis cassé les dents la première fois parce que je pouvais pas passer en Jeep, c'était trop haut. Qu'est-ce que cela ne tienne? J'ai fait venir d'Agadez une quarantaine de chameaux et leurs méharistes. Et j'ai fait une méharée de 110-120 km. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait une méharée, mais l'endroit où on est le plus à l'aise, c'est marcher à côté du chameau. Hein. Ce n'est pas dessus. Hein. Bon, j'avais moins de problèmes qu'en ce moment avec le dos. Mais bon, ça a été une belle expérience. On a trouvé les coupes. On n'a pas trouvé de fossiles, mais on a trouvé les coupes. On a trouvé. Les renseignements qu'on a de l'espace sont importants. Très importants. Alors, après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'est pire en Antarctique. Hein. J'ai fait 3 missions en Antarctique où je cherche là les ancêtres des anthropoïdes. Vous vous rappelez le schéma là au départ, les anthropoïdes. Les ancêtres des anthropoïdes, ils sont à 40 millions d'années. À 40 millions d'années, c'est le dernier maximum climatique. Vous avez une forêt tropicale humide qui s'étend du sud-est asiatique, qui passe par l'Iran, qui passe par la plaque arabique, qui recouvre toute l'Afrique, et arrivé en bas, ça passe en Antarctique et ça remonte en Amérique du Sud. Dans une forêt tropicale humide, vous avez quoi? Vous avez des singes. On a trouvé, après que j'ai vu Kadhafi, après que j'ai eu les visas, on a trouvé les plus anciens singes du continent africain chez Kadhafi. Il était content. Bon, d'accord. Bon, il y a eu après un certain nombre de choses dont on pourrait discuter sur le bien fondé. Mais c'est autre chose, ça ne fait pas partie de la paléontologie. Je pense que l'hypothèse qui a été publiée par mes collègues sur le peuplement d'où viennent les singes d'Amérique du Sud. Vous savez ce qu'ont publié mes collègues? Ils sont partis du golfe de Guinée et sur des radeaux naturels, ils ont traversé jusqu'aux côtes du Brésil. On a essayé, on a lancé des bouteilles à la mer, il faut une quarantaine de jours. Mais les singes, c'est pas comme un petit rongeur, hein. Ça fait pas la sieste, quoi, hein. Donc il faut de l'eau potable. Et l'eau potable, il faut mettre une baignoire. Il y a 40 millions d'années, les fabriques de baignoires, il y en avait peu. C'est pas bon, à mon avis. C'est pas bon. Donc, j'ai pris le pari qu'ils sont passés par l'Antarctique. Vous voulez que je vous dise, on a trouvé le niveau à forêt tropicale en Antarctique. J'y ai laissé une partie de mes vertèbres lombaires au cours d'une tempête. Les tempêtes, c'est un peu raide. Ça a été compliqué à monter, hein, parce que vous allez jusqu'à un point, puis il est avec la lame chilée, puis là, le voyage s'arrête. Alors après, j'ai négocié, c'était Michel Bachelet, qui était président de la République. J'ai échangé une conférence à son palais présidentiel contre le fait qu'elle me prête un Hercule C-130 pour rejoindre les îles où il y a la base chilienne, et puis qu'elle me prête un escorteur de la Navy chilienne, il y en avait un, je le savais, qui allait surveiller les Japonais qui ne peuvent pas se retenir, qui viennent harponner des baleines. En été, vous avez l'océan glacial antarctique, bon, vous avez un courant tout autour de l'Antarctique, et certains jours, cet océan glacial... L'été, il n'est pas pris en glace, hein. Et certains jours, c'est une mer d'huile, hein. J'ai jamais vu autant de cétacés de ma vie, jamais. Alors, vous avez toute la chaîne alimentaire, des cétacés à Fanon jusqu'au rorqual qui mange les autres, quoi, hein. Vous avez tout, hein. Tout. Mais c'est extraordinaire. Puis, l'Antarctique, Bon, les Espagnols appellent ça « el fine del mundo », c'est un autre monde, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Un soir, un jour, en fin de soirée, on a été pris dans une tempête. Pris dans une tempête, ça veut dire que vous êtes, en été, vous êtes à plus 2, plus 3, et puis, en une demi-heure, vous passez à moins 30, moins 35, moins 40. Ça change tout, hein. Ça change tout. C'est un petit escorteur qui faisait une centaine de mètres, quoi. Hein. On nous a dit, bon, dans les cabines, et puis vous bougez plus, hein, vous attachez, vous bougez plus. Alors, c'était impressionnant à l'intérieur, parce que, bon, on vivait ça, quoi. Hein. On prenait la crête de vague, puis à un moment, la crête de vague, bah, elle disparaît. Hein. Et donc, si vous avez des vagues qui font 25 mètres, ça veut dire que le bateau de 100 mètres de long, il descendait de 25 mètres. Quand il descendait de 25 mètres et qu'il cognait... Ah, bon, on disait cette fois, ça y est, il est cassé en deux. Quoi, hein. Et puis bon, on restait à sec. Mais il a fallu que j'aille dans la salle de bain la nuit. Et alors là, je n'ai pas compris parce que c'était un bateau de la marine chilienne et il n'y avait rien pour se tenir. J'ai été embarqué à un moment... Fracture du bassin, fracture du sacrum, tassement de 3 vertèbres. Mais je l'ai su après, c'est au début de la mission. J'ai continué la mission. Je me suis bourré de calmants et j'ai continué la mission. Bon, ça a fait quelques menus dégâts. En Antarctique, vous voulez que je vous dise, on cherche des dents qu'on connaît, hein, parce qu'on les a trouvées en Libye. On cherche des dents qui font entre 1 et 2 mm de long. Vous imaginez, vous voyez, partir en Antarctique chercher des dents entre 1 et 2 mm de long. Si vous n'y croyez pas, il ne faut pas partir. Hein. Il faut rester à la maison. C'est comme quand vous allez chercher des champignons. Si vous êtes persuadé que vous n'allez pas en trouver, ce n'est pas la peine d'y aller. Hein. Mais on va en trouver. J'ai repéré 3 endroits en Patagonie aussi, à partir du haut. Il y a 3 endroits qui sont pas mal. On va les trouver. On va les trouver, sûrement. Oui. Oui.
J'avais une question qui concernait la datation des fossiles.
Oui.
Elle doit être extrêmement précise et indiscutable. Entre 6 et 7 millions d'années, ça peut avoir une importance.
Bien sûr. Non, l'ADN ne permet pas de dater. L'ADN permet d'établir des relations de parenté. Alors, il faut dissocier justement tout ce qui est ADN ancien. Les collègues, bien sûr, essaient de dater avec ça. Mais pour dater, ils font une hypothèse. Il postule un taux d'évolution constant. Mes collègues savent, tout le monde sait, que le taux d'évolution, il n'est pas constant. Vous avez des périodes d'accélération et des périodes de ralentissement. Ce n'est pas constant. Donc, pour dater, la seule datation possible, c'est le fossile. Le fossile, lui, il date. Les méthodes. La méthode que tout le monde connaît, c'est le carbone 14. Sauf que le carbone 14, c'est un cosmonucléide, c'est-à-dire un élément qui se forme dans le cosmos. Mais il a une période relativement courte qui vous permet de dater jusqu'à 40 000 ans. 7 millions d'années, on est trop loin. J'ai contacté mes collègues du CEREJ, du labo du CEREJ. Le CEREJ appartient à l'université d'Aix-Marseille. Et ils ont inventé une méthode de datation à partir d'un autre cosmonucléide, le béryllium. Ils ont utilisé le béryllium 12 et le béryllium 13. Et la période est plus longue et permet de dater jusqu'à 15 millions d'années. Toutes les datations concernant le Tchad ont été faites au CEREJ à Aix. Mais c'est une nouvelle méthode qui a été mise au point pour Toumaï. Oui.
Monsieur le professeur.
J'entends pas. Plus fort. Oui, monsieur. Non, alors, la fossilisation, c'est le remplacement, cellule par cellule, de quelque chose qui est organique par quelque chose qui est minéral. Je vous ai parlé d'un mégalakshade, c'est-à-dire quand vous avez Toumaï qui vit là, vous n'avez plus le Sahara, vous avez plein de lacs partout. Et dans ces lacs, on le voit, parce que dans les roches formées, il y a plein de diatomites, il y a plein de diatomées, qui sont des algues siliceuses. Alors les fossiles sont admirablement bien conservés. Vous avez vu sur les photos que je vous ai montrées, par exemple la canine, vous voyez un canal pulpaire, la racine, ça se voit parfaitement, quoi. Ben, tout ça, ça a été fossilisé, transformé en silice. Ça pose un problème. Vous ne pouvez pas passer au travers, c'est trop dur, avec les scanners, par exemple, à l'hôpital de Poitiers. Ce n'est pas possible. Alors, vous n'avez pas de problème avec les synchrotrons. Mais si vous passez un patient au synchrotron, après, vous l'envoyez à l'Institut médico-légal, hein, directement. Hein. J'ai répondu à votre question ?
Je voulais vous poser une question.
Oui ?
C'est hors de quoi ?
Non.
C'est de quoi il se nourrissait.
Oui.
Ah, voilà.
Oui. De l'herbe, des feuilles, et quand il pouvait, de la viande. Il s'agissait d'attraper. Alors, c'était facile, il pouvait attraper du poisson. Hein. Nous-mêmes, quand on est. J'ai vécu un moment pour aller voir comment ça se passait dans le delta de l'Okavango. C'est très facile de pêcher. Vous avez des mares, alors qui sont au départ des étangs. Et puis, à un moment, quand on est en période sèche, ça se réduit. Et quand vous avez des poissons-chats là-dedans, à la fin, ce sont les plus gros poissons-chats qui restent, quoi. Hein. Ils ont bouffé tout le reste, quoi. Hein. Alors, il ne faut pas y aller pieds nus, hein, parce qu'il y en a qui sont gros, hein. Et il vous attrape un pied, il vous coupe le pied. Hein. Toumaï pouvait prendre du poisson facilement. Et je pense que quand il avait l'occasion d'attraper un autre petit singe, vous rendez compte, la faune est importante. Hein. On a décrit une centaine d'espèces. C'est le site de cet âge-là qui a la faune associée la plus nombreuse, connue pour le moment. Ma définition de l'humain, bipède, opportuniste, on n'a rien perdu de ça, hein. On s'est plutôt amélioré. Et une troisième chose très importante, éducable toute la vie. On est les seuls. Madame, regardez-moi, je suis encore capable d'apprendre des choses. Et on est les seuls à être éducables toute la vie. Ouais. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. D'abord parce que ça me rassure plus que de croire à des méthodes. Alors, ceci étant, je ne me cache pas les yeux. Hein, je... Si un jour... Vous savez, quand vous êtes biologiste de paillasse, ce qui n'est pas mon cas, moi, je suis sur le terrain, il vous faut élever, vous avez un élevage. Alors, vous élevez, bon, mettons des petits mammifères de type rat, souris, des choses comme ça, ou des lapins, mais bon, allez, parlons des rats et des souris. Quand vous voulez faire l'élevage, on vous dit vous aurez besoin de combien de rats ou de combien de souris par mois ou par semaine, enfin. Hein. Et on vous dit, vous avez besoin de, je ne sais pas, 100 rats, il vous faut tant de mètres carrés. Si vous dépassez, si vous mettez plus de 100 rats dans le nombre de mètres carrés prévu pour 100 rats, vous allez avoir des épidémies, vous allez avoir des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé avec les poulets. Hein. La grippe du poulet, c'est ça. Hein. On a mis deux... Mais... Je vais me faire tuer, là. Où elle est, Madame Boissonneau? Je ne la vois pas. Ah oui, c'est caché. Hein. C'est le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle dans les hôpitaux. À mon avis, je ne sais pas, mais le docteur, au fond, là-bas, va nous dire... Les infections nosocomiales, c'est ça, hein, on met trop de patients dans un endroit trop réduit. Vous êtes contre cette interprétation? Pas de réponse. À mon avis, c'est ça. Donc, je pense, moi, qu'il y aura une régulation, au minimum une régulation naturelle. Alors, peut-être qu'on prendra des décisions plus raisonnables que ça. Vous savez, il y a eu des tas de régulations. Alors, bon, compte tenu des années que nous avons les uns et les autres, nous pensons immédiatement aux deux dernières ou aux trois dernières guerres mondiales. Hein. Mais vous avez eu la peste, hein. Vous avez eu la tuberculose. Donc, bon, il y aura une régulation. Bien sûr qu'il y aura une régulation. Vous avez bien vu, la courbe que je vous montre montre qu'en 2050, on sera trop nombreux si on reste dans le système où on est parti. Mais prévoir l'avenir, on ne sait pas, quoi. Hein, vous voyez toutes les incertitudes qu'il y a. Hein. Mais enfin, il faut quand même aussi penser. Il faut aussi penser. Et alors, je ne sais pas si j'ai le droit de m'aventurer sur ce terrain-là. La présidente et Madame Boissonneau vont me tirer les oreilles après et vont me dire, on ne vous a pas invité pour que vous parliez de ça. Mais bon, je verrai, hein. Je me défendrai. Sur ces régulations... Ou plus simplement, le sida, à mon avis, c'est une régulation. C'est une pandémie mondiale. C'est une régulation. C'est une régulation. Et il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Mais il faut que les gens perdent cette habitude, et ça viendra de l'enseignement. Il faut qu'on explique aux gens, par exemple, que l'eau... Attendez, le principal problème à l'heure actuelle sur notre planète, c'est un problème dont on ne parle pas. C'est l'eau. Trouvez-vous normal, vous qui êtes là, ce soir, tous, trouvez-vous normal qu'il y ait 2 milliards de personnes qui se couchent chaque soir sans avoir bu à leur soif? On en parle où? Qui en parle? Personne. Et on continue gaillardement à laver notre voiture avec Claude. Voilà, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on fait ça comme si on était encore à l'époque où on estimait que l'eau, c'était un bien inépuisable. Eh bien, ce n'est pas ça. Les ressources de la Terre, elles sont limitées. Elles sont épuisables. Bon, moi, je crois que ça, il s'agit de l'apprendre et que des enfants sont capables de comprendre ça. Si nous, on n'est pas capables de le comprendre. À quoi ça sert de laver sa voiture 4 fois par semaine? À quoi ça sert? Dites-moi. Je vois la mienne en ce moment, elle est couverte. Là, il y a dû y avoir ces derniers temps un vent du Sahara qui est venu jusque-là. Elle est couverte de sable du Sahara. D'autres questions? Oui, monsieur. Ça ne marche pas pour une raison toute simple. C'est que quand vous regardez, le plus ancien d'entre nous, il est où? En Afrique, c'est Toumaï. Il n'est pas ailleurs. Hein. Et on a cherché ailleurs. Hein. L'endroit où on cherche le plus depuis le plus longtemps, c'est l'Asie. Et les Chinois, ils ont beau tirer sur la ficelle, ils sont... dans le meilleur des cas, à 1,4 million. 1,5 million. Pas plus. Pas plus. Ces braves gens-là ont donné naissance aux Néandertaliens. Les Néandertaliens, ils sont à 400 000, 500 000 ans. Le plus ancien français, c'est Tautavel, à côté de Perpignan. C'est celui de Lumley. Bon, ces Néandertaliens, ils sont plus des hommes du froid, mais de fait, on vient de se rendre compte, ça, ce sont les phylogénistes moléculaires qui nous disent, bah, dans le fond, dans les monts de l'Altaï, il y a des Denisoviens, des Denisovas. Bon, ce sont des Néandertaliens orientaux. Les gens de Leipzig viennent de nous dire il y a moins de 2 semaines que probablement un de ces Denisoviens et un de ces Néandertaliens se sont rencontrés et ont donné naissance à une belle métisse qui a 90 000 ans. C'est plausible, hein? C'est plausible. Alors pour les datations, après, bon, on verra. On verra. Moi, je crois que le vrai problème de toute la technologie, c'est de penser que sa technologie permet de répondre à tout. Et alors qu'il faut les utiliser toutes pour essayer d'avoir une meilleure réponse. Et l'ADN ancien, c'est quelque chose de très utile, mais ça ne permet pas de répondre à tout. La paléontologie, c'est quelque chose de très utile, mais ça ne permet pas de répondre à tout. Et l'intérêt de cette affaire, c'est justement son côté pluri- et multidisciplinaire et transdisciplinaire. C'est justement là qu'est l'intérêt. Alors après, il y a... Et ça, c'est de votre faute. C'est normal. C'est votre histoire. Donc, quand vous allez être rendu dans la rue... Vous allez tous dire, dans le fond, Brunet, il est bien gentil, quoi. Il nous a raconté de belles histoires, mais on n'en sait pas plus que quand on est venu. Moi, mon rôle, moi, je ne suis pas un journaliste. Mon rôle, c'est de vous dire ce qu'on sait. J'ai fait un cours au Collège de France une année qui s'intitulait. Il y avait 3 parties. Ce que l'on sait... ce que l'on croit savoir, ce que l'on ne sait pas. La plus grosse partie, c'est ce que l'on ne sait pas. La partie qui est juste avant, c'est ce que l'on croit savoir, qui souvent se révèle être bon. Et ce que l'on sait, c'est tout petit, c'est presque rien. Alors, avec ce que l'on sait, ce que vous voulez, c'est que je vous raconte toute notre histoire. Je peux pas. Je peux pas. Mais vous rendez compte? Vous rendez compte? Moi, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, c'est-à-dire, c'est récent, quoi, il y a quelques années. Bon, c'était avant la révolution de 68, d'accord. Mais j'avais un maître qui était très connu à l'époque, qui était le professeur Jean Pivetot. Pivetot a fait un traité, le premier traité de paléontologie français, c'est le traité de Pivetot, en 20 et quelques volumes, je ne sais pas combien il y avait de volumes, mais enfin bon. Ce qu'il avait de plus ancien à nous montrer, nous, ses élèves, c'était des Néandertaliens classiques qui, dans le meilleur des cas, faisaient 50 000 ans. Vous vous rendez compte que moi, si je vous emmène dans la salle à côté, là, je vous en montre un qui a 7 millions d'années. Vous vous rendez compte le chemin qu'on a parcouru? Alors, je ne suis pas le petit pousset. Je n'ai pas devant moi quelqu'un qui a laissé des petits cailloux blancs pour m'indiquer tout le chemin. Bon, on progressera. Il y a encore, et c'est bien pour les jeunes, il y a encore beaucoup plus à faire que ce que l'on a fait. Moi, je crois que ce qui est bien, c'est qu'avec mon équipe, on a ouvert de nouvelles portes. Et c'est ça qui est important au bout du compte, c'est ouvrir de nouvelles possibilités. Coppens, dans un premier temps, est passé de l'Europe, parce qu'on croyait que le berceau c'était l'Europe, il a dit c'est l'Afrique. Mais il a dit c'est l'Afrique de l'Est. Moi, je suis arrivé derrière, j'ai dit non. C'est... Alors, c'était beaucoup, hein. 3 millions d'eux, à l'époque, c'était à ce moment-là, hein, dans les années 70, donc on prenait conscience que nos racines dans le temps étaient profondes. On sortait de toute cette période Pivetot, dont je vous parle, où on était à 50 000 ans. Et assez brutalement, de fait, on est passé à plus de 3 millions d'années. C'était énorme, hein, énorme. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'on était africain. Bon, Coppens a voulu restreindre à l'Afrique orientale. Ça ne marche pas. Ça aurait pu marcher, hein. Ça ne marche pas. C'est plus africain. Je pense qu'on trouvera... Vous vous rendez compte, si je reviens en arrière, là... Vous vous rendez compte tous les blancs qu'il y a là-dedans? Vous vous rendez compte toutes les investigations qu'il y a à faire? Alors, je vais vous donner une image. Le jour où Neil Armstrong a été sur la Lune, la première fois, il est descendu sur la Lune, c'était extraordinaire. Il a planté un drapeau. C'est pas pour ça qu'il connaissait la Lune. Ça montrait une chose. C'est que nous, les Homo sapiens, on était capable d'aller sur la Lune. Là, avec mon équipe, j'ai planté deux drapeaux. Un drapeau bleu, c'est le premier australopithèque connu à l'ouest de la Rift. Un drapeau rouge, c'est le plus ancien connu sur le continent africain. C'est pas pour ça qu'on connaît tout, hein. C'est comme Armstrong sur la Lune, hein. C'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. C'est le début. Et j'espère qu'on aura ouvert la voie à d'autres et que ça permettra de progresser. En tous les cas, ce dont je suis le plus fier, c'est que je ne me suis pas comporté au Tchad comme on s'est trop souvent comporté, nous, les Blancs, en Afrique. J'ai été travailler au Tchad, j'ai formé des Tchadiens, j'ai formé une école de paléontologie au Tchad, j'ai formé des gens qui font un enseignement, qui délivrent maintenant une maîtrise au Tchad. J'ai rien volé. Toumaï est au Tchad, Abel est au Tchad, tout le matériel, il y a quelques fossiles originaux qui sont à Poitiers, mais très peu, qui sont encore en cours d'étude. Tout est au Tchad. Vous vous rendez compte, je me suis battu pendant, je ne sais pas, 25 ans avec la municipalité locale. C'est dommage, il n'y a personne dans la municipalité. Pour qu'ils construisent un musée de sciences naturelles. Poitiers était traditionnellement une ville de musée de sciences nattes. Et il y avait des collections de sciences naturelles. Je me suis battu plus de 25 ans même. Et puis, un jour, je ne vais pas citer de nom si vous permettez, le maire de Poitiers me dit... Est-ce que tu es prêt à me donner le nom de Toumaï? Et moi, bêtement, j'ai cru que c'était pour faire un musée. J'ai donné le nom et c'était un parking. Alors, le même maire m'a dit, parce que je lui ai dit, il m'a dit, t'exagères, t'es bien universitaire. J'ai dit, tu l'as été aussi. Hein. Et il me dit, bien sûr. C'est le nom du pôle multimodal. Toumaï, c'est le nom de l'ensemble du pôle multimodal. Telle fut la réponse. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ça a au moins l'avantage. C'est que tous les étrangers qui viennent me visiter ici à Poitiers, je leur dis, vous arriverez à la gare de Toumaï. Et ça, ça leur dit quelque chose. Ça leur dit quelque chose. Et... Idriss Déby est venu à Poitiers, et quand il est arrivé à Poitiers et qu'il a vu la gare de Toumaï, le parking de Toumaï, il était très fier. Très, très fier. Bon. Mais c'est comme ça, hein, c'est bon. J'ai répondu à votre question ? Non, vous n'avez pas l'air convaincu, allez-y, dites-moi à quoi je n'ai pas répondu. Non, non, mais je ne veux pas vous laisser sur votre... Non, ça ne tient pas. Attendez, on vient de trouver les dernières. J'ai oublié de vous dire ça. Les derniers, la dernière découverte, c'est un collègue du Collège de France qui l'a faite au Maroc. Les plus anciens sapiens sont maintenant datés à 300 000 ans au Maroc. Et au-delà de 300 000 ans, vous n'en avez pas, on n'en connaît pas. Et ils sont encore en Afrique, je suis navré. Alors, la thèse là dont vous parlez, je connais, ouais, c'est Volpov Anko. Mais Volpov, il en a raconté d'autres. Hein. Ouh là là. Mais lui, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas le résultat d'un croisement entre Chapas et Néandertalien. Pardon ? Non, réaliste. Non, c'est contre toute évidence, contre toute évidence. Attendez, contre toute évidence. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, Toumaï, il a 7 millions d'années... Et le berceau de l'humanité est en Chine, où on trouve les plus anciens hominidés à 1,4 million. Ça vous paraît logique ? Non. Non. À l'heure actuelle, dans l'état actuel de nos connaissances, alors je vais être très scientifique, puisque vous avez l'air de me reprocher de ne pas l'être. Eh bien, je vais être très scientifique. Dans l'état actuel de nos connaissances, la probabilité que l'Afrique soit le berceau de l'humanité est plus forte que toutes les autres probabilités. Ça vous va ?
C'est-à-dire que sur le titre de votre livre, vous ne mettez pas de point d'interrogation.
Sur le site ?
Sur le titre de votre livre, Nous sommes tous des Africains, vous ne mettez pas un point d'interrogation.
Non, il n'y a pas besoin de point d'interrogation.
C'est une certitude.
Édition 2000. Vous pouvez tout mettre... Vous avez déjà publié un livre ?
Non, mais par contre, j'ai des amis qui ont publié, et je sais que les titres de livres sont...
Merci. Merci. Le titre du livre n'est pas de moi. Enfin, ce que j'ai proposé a été modifié. Mais c'est souvent modifié dans les conférences aussi, hein, ce que je propose. Alors, quand c'est fait gentiment, j'accepte. Quand c'est pas fait gentiment, je dis, vous trouvez un autre conférencier, c'est simple. Hein. Mais le titre d'un bouquin, non, oui, bien sûr, oui. C'est l'éditeur qui décide au bout du compte, oui. Mais ça me choque pas qu'il n'y ait pas de point d'interrogation. Attendez, il y a trop de différences, c'est pas possible. Vous ne mesurez pas le travail qui a été fait et vous ne rendez pas à César ce qui est à César en disant ça. Le travail qui a été fait en Chine par Pei, le Chinois, et Teilhard de Chardin, le Français, mais c'est énorme, c'est énorme, énorme. Et ils sont descendus à 1,4 million. Moi, je n'ai pas de raison de penser, et c'est plutôt l'inverse que je pense, moi. Si les collègues sont arrivés à ça, je ne suis pas plus malin qu'eux et je ne ferai pas mieux qu'eux. Et c'est avec ce principe-là que je vais ailleurs. Je ne cours pas derrière les collègues, comme beaucoup d'autres, pour essayer de dire, moi, je vais être le plus malin et puis je vais faire mieux qu'eux. Non, j'essaie de tracer mon propre sillon. Je ne vais pas dans les pas des autres. J'essaie d'être innovant. Et si on veut faire de la recherche, il faut être innovant. Alors, pour défendre ce que vous faites, moi je suis d'accord. Ramenez-moi, je vous donne rendez-vous ici. Je vous promets, je vous fais inviter pour faire une conférence ici pour dire j'ai trouvé un hominidé en Chine à 8 millions d'années. Alors, je vous connais des Chinois qui disent qu'ils en ont un à 8 millions d'années, mais ce ne sont pas des hominidés. Ce sont des grands singes, avec des canines. Je vous dis pas. Non, non, non. Alors, on peut discuter plein de choses, hein, bien sûr. C'est évident. Mais à l'heure actuelle, les chiffres parlent comme ça. Tout vient d'Afrique. Tout vient d'Afrique. Et cette idée de Volpov des métissages à l'intérieur, ça marche pas. Ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Je sais que Volpov y est très attaché. Mais ça marche pas. Je suis navré pour lui, ça marche pas. Alors, il y a l'autre, là, je ne me rappelle plus son nom maintenant, américain, enfin, ils sont deux, qui veulent aussi que l'ancêtre, ce soit l'orang-outan. J'ai le collègue qui est en face de mon bureau à Poitiers qui a trouvé les ancêtres de l'orang-outan. Il en a trouvé au Myanmar, il en a trouvé en Thaïlande. Bon, et l'ancêtre des orang-outans, c'est sûrement aussi quelque chose qui a donné naissance. Il y a plusieurs branches. Au Gigantopithecus. Alors les Américains sont fous. Ça rend les Américains fous, ça. Bon. Parce qu'il y a aussi cet aspect des choses. Vous avez, comme c'est notre histoire, les Américains souffrent horriblement du fait que ce sont des gens qui n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, c'est mon cas, je vais souvent. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis. J'ai beaucoup de collaborations aux États-Unis. Je travaille à Berkeley, je travaille à Harvard, à Cambridge. Je travaille à Tempe, en Arizona. Je travaille à San Francisco. J'ai beaucoup de collaborations avec les États-Unis. Et quand vous arrivez la première fois, ils me regardent, ils me disent « T'es d'où, toi ?» Alors, pendant longtemps, ce n'était plus le cas, mais pendant longtemps, je leur ai dit « Je suis de Poitiers ». Poitiers, c'est où ça? Alors, il y en a un paquet qui ne savent pas que où c'est Washington et qui ne savent pas que c'est la capitale. Alors, just in the middle, between Paris and Bordeaux. Alors ça, ça leur dit quelque chose, parce qu'à Bordeaux, il y a du vin. Alors, au milieu, ça va. Et alors, c'est une grande ville, ça? Non. Un petit village agro-pastoral. Le maire n'est pas content quand il m'entend raconter cette histoire. un petit village agro-pastoral. Je maintiens. C'est agréable d'ailleurs, hein. Fait bon vivre ici. Et il me dit, mais il y a une université là ? Je dis, oui, il y a une université. Et elle date de quand ? Et alors là, j'ai ma revanche. 1430. Et ça, les Américains, ils ne peuvent pas jouer à ça. L'Europe, ce n'est pas ce qu'ils imaginent. L'Europe, c'est tout un ensemble multiculturel avec plein de choses, une richesse absolument extraordinaire. Aux États-Unis, il n'y a pas cette richesse-là. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas cette richesse-là. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. C'est un État neuf. Je me rappelle, quand j'ai été nommé au Collège de France, anecdote. Les gens de l'université me font une fête. C'était sympathique. C'était très gentil, très aimable. Il y avait la presse, et naturellement, je me doutais que la presse allait me demander quel était le Pictave qui m'avait précédé. Bon, je suis né Pictave et je reste Pictave. Je suis né entre le vieux château de Jancé et le Horst de Champagné-Saint-Hilaire. Je le revendique. Je le revendique. M'en suis jamais caché. J'aime bien ça. J'aime bien. Et on me dit, quel est le Pictave qui a été nommé avant vous au Collège de France ? Et il y a combien de temps ? Et vous savez la réponse ? Je ne savais pas avant, hein. La réponse, c'est que c'est un Pictave qui a occupé la première chaire de médecine. Écoutez bien, docteur, la première chaire de médecine a été occupée par un Pictave. Il y a 550 ans, 560 maintenant. Poitiers était une université qui était reconnue au niveau mondial pour sa médecine et son droit. C'est comme ça. Ah ben oui, mais Montpellier, c'est pas Montpellier qui a fourni le premier titulaire de la chaire de médecine. C'est Poitiers. Ah, c'est comme ça. Alors, mais moi, je ne suis pas impressionné. Hein. Vous avez l'air très impressionné par les théories de nos amis américains. Je travaille beaucoup avec eux, mais chaque matin, quand ils sont dans leur salle de bain, ils écrivent une théorie nouvelle. Un certain nombre. Hein. Il y a des gens sérieux partout et il y en a qui ne sont pas sérieux partout aussi. Hein. Et la proportion est la même partout. Mais cette histoire de Volpov, non, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Alors, peut-être qu'un jour, on montrera que ça marche, mais pour le moment, on ne l'a pas montré. Hein. Et vraiment, ça, j'y crois pas. Pas du tout. Mais j'ai sûrement tort, et vous avez sûrement raison. Mais vous pouvez me citer. Hein. J'assume. D'autres questions ? Oui, monsieur. Oui. J'ai pas entendu. Est-il encore? Ah oui, la reine, quand Darwin a pris conscience qu'on partageait un ancêtre commun avec les chimpanzés, quand il a dit ça, et la reine Victoria l'a regardé et lui a dit, Monsieur Darwin, je suis certaine que vous avez raison, mais surtout, ne le répétez à personne. Alors, puisque vous venez de me demander de vous raconter une histoire comme ça, je vais vous en raconter une autre histoire, qui est plus personnelle. C'est l'histoire de ma maman, qui nous a quittés. Et pendant un moment de sa vie, il était à Jancé. Et j'allais la voir à Jancé, où il était dans une maison médicalisée pour des raisons. Bon. Et quand j'allais la voir, à chaque fois. Et il nous a quittés, elle avait un âge. Bon, j'étais déçu parce que je pensais qu'elle deviendrait centenaire. Elle n'est pas devenue centenaire. Alors, je vais vous raconter deux anecdotes de ma mère. C'est peut-être pas bien, mais. Et la première, c'est j'ai téléphoné quand j'ai trouvé Abel. J'ai téléphoné du désert. Le premier que j'ai eu, c'est David Pilbim, à Harvard. Et je lui ai dit, David, I got one. Et il m'a répondu, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, ta vie va changer. J'ai fini par avoir copain, c'était le plus difficile à avoir. Il m'a dit, je te crois pas, tu mens, tu l'avais emmené. C'est un moulage. J'ai téléphoné à ma mère. Vous savez ce que m'a répondu ma mère ? Ben, je vais vous le dire. Elle m'a dit, je suis contente pour toi, mais dis, maintenant, tu ne vas plus partir. C'est bien une réponse de mère, hein ? Alors, deuxième chose, deuxième histoire, puisqu'on est dans les histoires de famille. J'allais voir ma mère et à partir d'une certaine époque, à chaque fois, elle me disait, je veux te parler. Va voir si la porte est fermée. Elle parlait de la porte de sa chambre. Je disais, elle est fermée. Va voir si la porte est fermée. Bon, j'allais voir si la porte était fermée. Je disais, elle est fermée. Et elle me disait, je voulais te dire, je suis fier de toi, mais... Avec tes singes, t'exagères. Ah, merci beaucoup, madame.
Voilà.
Oh là là. Merci. Merci, mesdames. Merci.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir offert cette...